Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Par ici les sorties. En seconde partie d'émission, nous parlerons photographie en compagnie de Daniel Henri Feuillade qui se prépare à organiser une nouvelle exposition dans son studio galerie. Mais en première partie, on va parler de théâtre et de poésie et même de politique en compagnie de Jacques Crémer que nous avons toujours beaucoup de plaisir à recevoir dans nos studios. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Alors vous nous présentez les cahiers d'Ithac d'Ulysse à Tsipras, donc évidemment on va en Grèce et c'est un voyage à la fois dans l'espace et dans le temps.
Oui, effectivement, dans l'espace puisque... Dans le temps, puisque ce spectacle part de l'Antiquité grecque, du temps d'Homère, l'Iliade, l'Odyssée, le Cyclope, et nous utilise les voix de poètes déjà disparus, mais célèbres, en Grèce tout au moins, Cavafis, Séphéris, le prix Nobel de littérature... Et relativement plus récent, mais quand même déjà appartenant au passé, Yanis Ritsos. Et, puisque je parle de la composition du spectacle, et des textes donc, mes cahiers d'Ithac, puisque j'étais moi-même en Grèce, dans l'île d'Ithac, l'île d'Ulysse, il y a un an et demi. Et là-bas, j'ai un petit peu écrit dans mes cahiers.
Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Racontez-nous ça.
Je suis allé là-bas parce que c'est l'île d'Ulysse. Et que depuis longtemps, je voulais travailler sur Ulysse. C'est un personnage qui m'a toujours, depuis longtemps, séduit, le héros de l'Odyssée, qu'on surnomme, je le rappelle, le chevalier d'endurance. Et comme moi-même, j'approche des âges canoniques, il faut que je témoigne de pas mal d'endurance, sans me comparer à l'illustre Ulysse, pour continuer mes activités théâtrales, poétiques et autres.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette figure légendaire d'Ulysse? C'est à la fois l'exil et puis le retour chez soi, les péripéties.
Oui, c'est évidemment, c'est un de ces grands mythes, Ulysse, qui a été tout le temps retraité. Alors, je veux dire traité à nouveau par les successeurs d'Homère. Alors, dans Homère, c'est merveilleux, c'est légendaire, etc. Et on peut l'interpréter de mille et une façons. Mais assez récemment, par exemple, comme vous le savez, puisque on a fait ici une émission, j'avais fait un spectacle sur le poète Benjamin Fondane, qui est l'auteur de tout un recueil qui s'appelle Ulysse. C'est-à-dire, lui-même a vu dans Ulysse, à juste raison, la figure de l'errant, du migrant. Et justement, puisqu'on parle de ça, et on arrive comme ça à l'actualité, si vous voulez, il se trouve que c'est la Grèce, qui pourtant était enfoncée dans la crise qu'on sait, qui supporte le choc principal des migrants qui arrivent dans les îles, on a beaucoup parlé, etc. Et du coup, le thème d'Ulysse, si vous voulez, se trouve réactivé beaucoup. Enfin, il l'est perpétuellement, parce que l'émigration accompagne toute l'histoire de l'humanité. Hein. Le peuplement américain, n'en déplaise à Trump, a été fait entièrement par des migrants.
Vous aimez faire des allers-retours comme ça entre notre époque et les temps les plus anciens. Vous l'aviez fait avec Fukushima. Il faut absolument ne rien oublier du passé qui nous enseigne beaucoup.
Ben, je pense, oui. Alors, moi, je dois dire que ma démarche, elle n'est pas intellectuelle. Elle est celle de quelqu'un qui, aimant... la littérature, la poésie, le théâtre qui l'ont nourri, et les auteurs anciens, et en même temps étant quelqu'un qui, comme beaucoup d'entre nous, se passionne pour le politique au sens noble du terme, mais aussi au petit sens, parce que c'est parfois très amusant, les romans d'actualité en ce moment.
On rit beaucoup en ce moment.
On rit beaucoup en ce moment, n'est-ce pas? Et donc je me passionne effectivement pour tous ces événements présents, d'où mon titre... Enfin, mon sous-titre, d'Ulysse à Tsipras, puisque Tsipras, comme on sait, c'est le premier ministre en poste en Grèce qui a affronté la crise et qui essaye de s'en sortir.
Ouais. C'est pas facile. Sur les épaules duquel beaucoup d'espoir avait été placé par le peuple grec et malheureusement, la Grèce est toujours aussi martyrisée, bien évidemment, par...
C'est, si vous voulez, justement, alors, pour mon spectacle, dont j'ai fait carrément, je peux dire, une première version, il y a environ 6 mois, j'ai tout refait, là, ou presque tout. J'ai gardé Homère, j'ai gardé Cavafis et Séphéris, mais pour le reste, j'ai gommé et j'ai repris. Alors pourquoi... j'ai pris justement une distance avec l'actualité, parce que je faisais une sorte de revue de presse, et je parlais au présent, je citais Merkel, Hollande, Varoufakis et Tsipras, évidemment, dont je faisais entendre les voix, les discours, etc. Je m'amusais un peu avec tout ça, et je voulais que ce soit vraiment d'une actualité immédiate et brûlante. Et puis, à la réflexion, pour deux raisons, j'ai éliminer, disons, ce côté actualité pour repartir avec une certaine distance. D'abord pour des raisons artistiques et de cohérence artistique, d'unité du spectacle. Enfin, je pense qu'il sera plus fort comme ça. Et d'autre part, parce que, puisque vous en parlez, l'actualité grecque, pour l'instant, elle n'a pas beaucoup bougé. Oui. C'est à peu près comme c'était il y a un an et demi, c'est-à-dire quand j'étais à Ithaque, c'était le point chaud de la crise.
Oui, rappelez-nous peut-être où se trouve Ithaque en Grèce. Alors, on rappelle, parce qu'on ne l'a pas dit, et peut-être que des auditeurs sont assez jeunes, ne connaissent pas Ulysse ni l'Odyssée. Ithaque, c'est le port d'attache finalement.
L'île d'Ulysse.
C'est l'île d'Ulysse.
Il était le prince, le roi d'Ithaque. Voilà. Sa Pénélope était à Ithaque. Enfin, selon la légende, parce que... les Ithaquiens sont persuadés que c'est vrai, et on visite quand même des ruines là-bas, qui sont données pour les vestiges du palais d'Ulysse. Hein. Alors, il y a beaucoup de... Même les spécialistes sont divisés, hein, quant à l'historicité de la chose, parce que certains pensent que c'est l'autre île, Céphalonie, en face... qui était l'île d'Ulysse, mais enfin...
L'île des valeureux.
Oui, mais enfin, c'est... Voilà, c'est... Admettons que ce soit Ithaque. Alors, quand j'étais à Ithaque, c'était au chaud de la crise, les banques grecques fermées, c'était vraiment la catastrophe, etc. Et on se demandait si, rappelons-nous, si il n'y allait pas y avoir un Grexit. Hein, finalement, c'est le Brexit qui est arrivé, c'est les Anglais qui sont sortis de l'Europe. Et Tsipras, le Premier ministre... contre son ministre des Finances qui a démissionné, Varoufakis, ils avaient deux positions différentes. Il a fait le choix de rester en Europe et il y a eu un dialogue assez intense, si on s'en souvient, avec notamment Hollande et Sapin. Et finalement, il a, tout en négociant, accepté les mesures que la Troïka, dont il ne voulait plus entendre parler, puisqu'il l'appelait les institutions, voulait imposer à la Grèce. Et on sait que dès cette époque, je suis peut-être un peu long là, parce qu'il faut que j'abrège quand même.
Allez-y, Jacques.
Dès cette époque, il y a eu un débat entre le FMI et les Allemands. Le FMI voulait que la dette grecque soit renégociée, et les Allemands ne le voulaient pas, parce que c'était les banques allemandes qui perdraient le plus. Et finalement, on en est toujours là, donc la situation n'a pas bougé. Sauf qu'il y aurait, d'après Le Monde, il y a 3-4 jours, une très légère reprise économique.
Alors, en tout cas, ce sont des questions qui seront présentes dans le spectacle. Vous posez des questions. Est-il possible de rompre avec le système capitaliste actuel? La rupture risquerait-elle d'engendrer quelque chose de pire encore pour les peuples? Peut-on composer avec le système? Voilà, ce sont des questions que Varoufakis et Tsipras se sont posées ces dernières années, finalement.
Mmh, absolument.
On n'en dit pas plus. Parlons du spectacle à présent. Donc, vous avez mêlé vos propres écrits, ceux des Cahiers d'Ithaque, avec... les poèmes des auteurs que vous avez cités, c'est ça?
Oui, et je dois vous dire aussi qu'il y a également un film, un merveilleux documentaire fait par une jeune grecque de grand talent, Dimitra Nikolopoulou, voilà, Dimitra Nikolopoulou, qui rend compte de façon très sensible, très poétique, et très forte, et en même temps c'est très, très violent, mais c'est pas noir, du vécu, alors c'est là où on est dans le drame, du vécu de beaucoup de Grecs, des couches les plus pauvres, même des couches moyennes, les profs, les commerçants, tout le monde a trinqué là, dans cette crise. Il y a beaucoup de misère, beaucoup de suicides, beaucoup de mendiants, on le sait. Alors on voit tout ça dans le petit film et également dans une nouvelle que j'ai intégrée au spectacle d'une excellente romancière grecque, peut-être pas très connue, Hersi Sotiropoulos, qui a fait quelques livres merveilleux, et cette nouvelle, elle fait le pendant avec le film.
Est-ce que vous accepteriez de nous lire un poème que vous direz sur scène les 1er et 2 décembre prochains à Bainvilliers?
Je ne vais pas vous le lire, je vais vous le dire.
Ah, vous allez me le dire.
Je vais m'adresser à vous. Quand tu te mettras en route vers Ithaque, souhaite que le chemin soit long, plein d'aventures, plein d'enseignements. Les lestrigons et les cyclopes, la colère de Poséidon, ne les crains pas. Jamais sur ton chemin tu ne verras rien de tel, si ta pensée garde sa hauteur, si une émotion rare étreint ton âme et ton corps. Les lestrigons et les cyclopes et Poséidon furieux, tu ne les croiseras guère si tu ne les transportes pas en esprit, si ton esprit ne les dresse pas devant toi. Souhaite que le chemin soit long, qu'il soit nombreux les matins d'été où, quel plaisir, quelle joie, tu entreras dans des ports jamais vus, dans des comptoirs phéniciens fais halte et procure-toi de la bonne marchandise. Nacre, corail, ambre ou ébène et beaucoup de parfums voluptueux, le plus possible de parfums voluptueux. Visite encore bien des villes égyptiennes. Apprends, apprends toujours auprès des savants. Garde à l'esprit toujours Ithaque. L'arrivée là-bas est ton but, mais ne hâte en rien ton voyage, qu'il dure des années, cela vaut mieux que tu sois vieux en abordant sur l'île, riche de ce que tu as gagné en chemin, sans attendre la richesse d'Ithaque. Ithaque t'a offert ce beau voyage, tu n'aurais pas sans elle pris la route, elle n'a plus rien à t'offrir, et si elle t'apparaît pauvre, Ithaque ne t'aura pas trompé. Devenu sage, avec tant d'expérience, tu dois déjà savoir ce que les Ithaques veulent dire.
Quelle merveille! Oh, quelle merveille!
C'est de Cavafis.
C'est de Cavafis. Merci beaucoup, Jacques. Là, vous nous avez gâtés. Hein.
C'est un beau bain. Il commence et il finit le spectacle.
Il commence et finit le spectacle. Quelle merveille!
Oui.
Et comme c'est bien dit.
Oh. Merci.
On a hâte d'aller vous applaudir. Je vais déjà donner, hein, parce que il nous reste encore 5 petites minutes. Je donne déjà les dates. Hein. C'est 1er et 2 décembre dans votre studio théâtre de Mainvilliers. Vous pouvez peut-être nous donner les horaires.
20h30, les deux soirs. Le studio théâtre de Mainvilliers se trouve dans l'aile droite de la mairie de Mainvilliers. Dans la mairie de Mainvilliers, aile droite. Très facile à trouver, parking facile et gratuit.
Voilà. Parlez-nous de ces poètes grecs. Vous les fréquentiez déjà, évidemment, avant, je suppose.
Non, c'est une découverte complète pour moi. Cavafis, j'en ignorais même le nom. Séphéris également. Et donc, à l'occasion de ce voyage vers Ithaque, et j'ai fait de ce poème de Cavafis, si vous voulez, la règle éthique de ce travail, puisque ça fait maintenant 2 ans que je suis là-dedans. Et au fond, j'ai découvert beaucoup de la Grèce, j'ai lu des livres d'histoire, et beaucoup de sa littérature, j'ai lu des romanciers, j'ai lu des poètes, etc. C'est pour moi un des plaisirs du théâtre, c'est quand je me fixe sur un sujet, j'adore ça, j'apprends toujours auprès des savants. D'ailleurs, demain, je vais rencontrer quelqu'un que je connaissais mais que j'ai complètement perdu de vue, que je connaissais il y a 40 ans, qui est le poète Dominique Grandmont, un excellent poète, mais qui est surtout connu, c'est un merveilleux poète, mais il est surtout connu pour être le traducteur de Rizzos, qu'il a lui-même beaucoup fréquenté. Et j'ai tous les poèmes de Rizzos, traduits par Grandmont, et je les ai lus et relus. Et c'est vraiment un très très grand poète, Rizzos, mais c'est le plus connu. Cavafis, Seferis, qui sont quand même très connus aussi, mais on les connaît moins que Rizzos. Ouais.
Parce qu'il est connu aussi pour s'être opposé aux régimes dictatoriaux qui se sont succédés en Grèce. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui a été prisonnier, qui était exilé et qui s'est investi toute sa vie. C'est...
Absolument. Je termine le spectacle avec, si l'émission durait une heure, je vous le dirais.
Ah ben non, moi.
Je termine le spectacle par un très long poème de Rizzos qui prend la forme d'une lettre à Frédéric Joliot-Curie, je crois que c'était le fils de Pierre et Marie Curie, qu'il a composé ce poème. Et certains de ces poèmes, je ne sais pas si c'était le cas de celui-là, ont été, comme ça avait été le cas dans les camps de concentration, planqués dans des bouteilles, enfouis dans la terre, et on les a retrouvés après. Et on a parlé de l'île où il était, la Macronissos, comme du Dachau grec. Et donc il a été là, emprisonné, torturé, etc. Il a fait partie de ceux qui ont été mis là. Il avait été un résistant anti-nazi, très jeune. Et puis après la guerre, il y a eu une terrible guerre civile, fratricide, terrible en Grèce, entre, disons, les communistes et leurs alliés, et donc, Rizzos était de ce côté-là, puisque c'était le pire moment de la guerre froide, le monde était divisé en deux, et ceux qui voulaient pas que s'instaure en Grèce un régime communiste, bon, l'histoire a jugé, mais enfin, je veux dire, à l'époque, ça a été terrible, et soutenu par les Anglo-Américains. Les Grecs, on l'ignore un peu, les Grecs ont subi à ce moment-là quelque chose de féroce, mais sous une soi-disant démocratie, avec des bagnes dans ces îles où sont accueillis aujourd'hui par les Grecs, qui sont très généreux, et Obama leur a rendu hommage là récemment, dans ces îles où sont accueillis les migrants. Et là, Rizzos a énormément souffert. Et il a écrit beaucoup de poèmes. Et le poème que je vais dire, donc, c'est une lettre écrite au bagne de Aistratis, qui est un autre bagne à côté de l'île de Macronissos, une autre île où c'était vraiment des bagnes, quoi, même des camps de concentration, on peut employer le mot exactement. C'était torturé, etc. On voulait qu'il signe des aveux et des actes de repentance pour leurs engagements communistes. Et Rizzos et quelques autres ont refusé d'abjurer, si vous voulez. Alors, c'est une tragédie. Alors, beaucoup sont morts. Rizzos, il a pu en réchapper au prix de sa santé, qui n'était pas bonne du tout. Et puis, malheureusement pour les Grecs, comme on sait, c'est une tragédie à répétition. En 67, alors ça, moi, je m'en souviens, il y a le coup d'État des colonels et à nouveau la répression, qui fait que beaucoup de jeunes Grecs partent, les meilleurs intellectuels, artistes. Et moi, j'ai des amis, ça vous dit peut-être quelque chose, Georges Apergis, c'est un grand musicien, enfin, il y a eu Xenakis, mais qui est mondialement connu. Mais Georges Apergis est très, très connu. Yanis Kokos, le scénographe et metteur en scène, avec lequel j'ai travaillé quand il était très jeune, qui font partie de ces exilés grecs du temps des colonels, le coup d'État des colonels, c'était en 67.
Jacques, on arrive à la fin de cette émission. Les Cahiers d'Ithaque, 1er et 2 décembre, donc à 20h30, au Studio Théâtre de Mainvilliers. Vous devez réserver au 06 77 82 80 75 ou au 02 37 28 28 20. Là, on s'apprête à écouter une grande chanteuse, Angélique Natos, qui interprète les poètes, parce que là-bas, la chanson et la poésie font très bon ménage.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, Jacques.
Merci.
Deuxième partie de notre émission Par ici les sorties, comme je vous l'ai dit en préambule tout à l'heure, eh bien, nous recevons Daniel-Henri Feuillade, photographe bien connu évidemment en Eure-et-Loire, qui propose une exposition dans son atelier galerie de Saint-Arnoult-des-Bois. Ce sont des photos prises dans les abbayes et monastères. Qu'est-ce que les visiteurs pourront découvrir?
Ben, déjà, ils découvriront de très belles architectures, parce que Je suis assez attiré par l'architecture en général. D'ailleurs, Jacques Lindemar, qui a fait des textes sur mon travail, dit que je suis un géomètre. Et il y a d'abord ça. Et puis, il y a souvent des constructions tout à fait admirables, compte tenu des moyens, des époques différentes. Voilà. Et puis que dans cette période un peu décadente, il est nécessaire de prendre un peu de recul.
Oui, de regarder à la verticale, de se mettre à la verticale. Ouais. Et donc, ce sont des photos que vous avez prises durant vos voyages,
oui,
un peu partout, hein, même en Angleterre,
oui.
Vous êtes allé à l'étranger.
En Angleterre, en Espagne, en Suisse. Voilà.
Ouais. Qu'est-ce qu'on photographie quand on photographie une église ou un monastère? Est-ce que c'est le silence qu'on doit photographier?
Bah, d'abord, c'est le coup de cœur pour un lieu.
Oui.
Hein. Et oui, on photographie le silence et la pureté des lignes du bâtiment. Quoi.
Oui. Alors, je crois que vous avez une certaine appétence pour l'art roman.
Oui, oui.
Plus que le gothique.
Oui. Bah, je suis corrézien d'origine et toutes nos églises sont romanes pratiquement, hein,
oui,
avec des campaniles et puis... Les sols en basalte. Et puis, ça me semble plus vrai.
Vous m'avez dit tout à l'heure quelque chose, et on va être politiquement incorrect, peu importe,
ouais.
Mais l'art roman, c'est fait pour Dieu, l'art gothique exprime la puissance de l'Église. Quoi, c'est ça.
Oui, je pense ça.
Est-ce qu'il y avait un coup de cœur particulier, vous, un lieu qui vous a vraiment terrassé?
Ah, c'est le Toronnet.
Le Toronnet.
Et alors, le Toronnet, je vais vous expliquer comment j'y suis allé. D'abord, j'ai lu un livre qui s'appelle « Les pierres sauvages », qu'on peut trouver à Chartres, l'Esperluette, puisqu'il a été réédité il y a peu de temps. Et c'est un livre qui a été fait par un grand architecte français qui s'appelait Fernand Pouillon, qu'on a oublié. C'est lui qui avait reconstruit le vieux port de Marseille après la guerre. Et puis, il a eu une grosse histoire dans un projet immobilier à Boulogne qui s'appelait Le Point du Jour et où il s'est fait pouillonner, comme on dit. Ensuite, il est parti en Algérie. Il a construit Climat de France à Alger, qui est une cité magnifique, et à Zeralda et puis ailleurs, quoi. Et dans ce livre, il se met dans la peau du prieur qui cherche un endroit pour construire son abbaye. Et il arrive près du petit ruisseau du Toronnet, qui s'est situé dans le Var, pas très loin de Draguignan. Et il monte le chemin. Et puis, il voit un endroit où il va construire son abbaye. Et il vous décrit comment il construit son abbaye, avec toutes les techniques de l'époque, et puis le côté humain avec les convers qui travaillent avec lui, etc. Et c'est un livre fabuleux, quoi. Et moi, quand j'y suis allé, dès que j'ai été au pied du chemin, j'étais dans son livre.
Oui, hein, totalement.
C'est tout à fait étonnant.
Alors ça, j'imagine qu'on verra des photos de ce lieu.
Oui, oui, il y en a 6 ou 7.
6 ou 7. Alors ces photos, donc, ce sont des grands formats, ce sont des...
Non, ce sont des A3, quoi, à peu près. S'il y a quelques grands, formats un peu plus grands, par exemple Noirlac et Fontevraud, ce sont des formats 40-50, que j'avais fait pour une autre série qui s'appelait Paysages intérieurs, où c'était la lumière qui reconstruisait les intérieurs des monuments, quoi. Et puis, c'était aussi la manière dont on ressentait le lieu, quoi.
Oui, oui, voilà. Oui. Alors, il y a des photos en noir et blanc, des photos en couleur.
Oui, tout à fait. En général, je double mes photos noir et blanc en couleur pour l'illustration. Et puis, aujourd'hui, le noir et blanc, déjà la photo, ça ne dit plus rien à personne. Et puis le noir et blanc un peu moins, quoi. Ouais. Donc j'ai mis de la couleur parce que bon, le Toronnet en couleur, d'abord c'est sont des teintes magnifiques d'ocre et que c'est presque du monochrome, hein. Ouais. Bon, les gens apprécieront.
Alors rappelons que ce lieu, donc votre lieu, c'est à Saint-Arnoux
des Bois.
On y accède facilement. C'est à combien de kilomètres de Chartres à peu près?
C'est 20 km
de Chartres
sur la route de Senonches. Voilà, de Chartres, c'est un gros quart d'heure, quoi. Je voulais dire une chose, c'est que sur mon site, il y a un plan pour venir.
Voilà. Donc c'est d'ailleurs www.danielhenryfeuilladephoto.com. Atelier galerie de Saint-Arnoux-des-Bois, donc abbaye et monastère, des photographies de Daniel Henry Feuillade, des noirs et blancs et des couleurs. C'est jusqu'au 31 janvier. On peut également vous appeler au 02 37 ouais. 22 38 06. Merci beaucoup.
Merci à vous.